Bonjour à tous et à chacun. Je vous invite à écouter la lecture de quelques passages bibliques qui serviront de base à notre méditation de ce matin. Je commence à lire dans le livre de l'Exode, au chapitre 27, quelques versets à partir du 20e. Ce sont les recommandations données par Dieu à Moïse pour la construction du tabernacle. Tu ordonneras, dit Dieu à Moïse, tu ordonneras aux Israélites de t'apporter de l'huile raffinée d'olive concassée pour alimenter en permanence les lampes du chandelier. Aaron et ses fils arrangeront ces lampes dans la tente de la rencontre, devant le voile qui cache le coffre de l'acte de l'Alliance, pour que ces lampes brûlent du soir au matin devant l'Éternel. C'est une loi en vigueur, à perpétuité, pour les Israélites dans toutes les générations. Nous lirons ensuite dans le livre des Proverbes, au chapitre 6, quelques versets à partir du 20 aussi. Mon fils, reste attaché aux préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Serre-les constamment dans ton cœur, attache-les comme un collier à ton cou. Ils te guideront quand tu voyageras, ils veilleront sur toi durant ton sommeil et s'entretiendront avec toi à ton réveil. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Les avertissements et les reproches sont le chemin de la vie. Ensuite, dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile selon Luc, nous lisons quelques versets au chapitre 11, à partir du 33. Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un recoin ou sous une mesure à grain. Non, on la place sur un pied de lampe pour que ceux qui entrent voient la lumière. Tes yeux sont comme une lampe pour ton corps. Si tes yeux sont en bon état, tout ton corps jouit de la lumière. Mais s'ils sont malades, tout ton corps est plongé dans l'obscurité. Fais donc bien attention à ce que ta lumière ne soit pas obscurcie. Si ton corps tout entier est dans la lumière, sans aucune autre partie dans l'obscurité, il jouira pleinement de la lumière, comme lorsque la lampe t'éclaire de sa clarté. Et au chapitre suivant, le 12e, nous lisons aussi quelques versets. Restez en tenue de travail. Verset 35. Gardez vos lampes allumées. Soyez comme des serviteurs qui attendent le retour de leur maître, parti pour une noce. Dès qu'il arrive et qu'il frappe à la porte, il lui ouvre. Heureux ces serviteurs que le maître, en arrivant, trouvera en train de veiller. Vraiment, je vous l'assure, c'est lui qui se mettra en tenue de travail, les fera asseoir à table et passera de l'un à l'autre pour les servir. Peu importe qu'il rentre à minuit ou vers 3 heures du matin, s'il les trouve ainsi vigilants, ils s'en trouveront heureux. « Vous avez compris de quel thème je voulais vous parler ce matin. Nous parlerons de la lampe. Et nous commençons par ces objets qui sont dans l'Ancien Testament des éléments importants pour le culte. Les lampes, objets dans toutes les peuplades et dans tous les temps. Objets que l'archéologie retrouve dans les peuplades les plus anciennes et que nous utilisons largement dans nos sociétés hyper développées. On a même maintenant les lampes de notre téléphone. Toujours et d'abord pour éclairer nos maisons et nos chemins, notre coin de vie, notre table, notre famille. De toute évidence, les lampes anciennes, les lampes à huile, fournissaient une lumière beaucoup plus modeste que celle de nos puissants projecteurs. Il faut donc nous remettre dans le contexte d'autrefois pour bien comprendre la réalité et l'image de la lampe et ce qu'elle est appelée à nous dire. D'abord, le chandelier du temple. Le chandelier est posé devant le rideau, dans le lieu saint. Il comporte une série de lampes à huile, comme toutes les lampes de l'époque, que Dieu demande au peuple de faire brûler à perpétuité. Ces lampes allumées symbolisent la présence vivante de Dieu au milieu de son peuple et la fidélité de ce Dieu qui vient pour éclairer la nuit des êtres humains. Permanence de la lumière dans le sanctuaire. Ces lampes allumées et maintenues ainsi par l'action et les soins persévérants des hommes du peuple de Dieu symbolisent la présence vivante du peuple auprès de son Dieu, la fidélité du peuple qui vient dans la prière dire à Dieu sa foi et son amour pour lui. C'est la permanence du culte. Ainsi donc, nous avons dans cette image de la lampe et dans ce fait de cette flamme qui brûle en permanence, le double mouvement de Dieu vers les êtres humains et du peuple de Dieu vers son Dieu. C'est une petite lumière, celle qui jaillit de la lampe. Elle est bien différente de la grande lumière qui éclaire la nature et les êtres humains par le soleil. C'est une lumière de proximité. C'est une lumière toute humaine. Et c'est une lumière vivante, parce que la flamme bouge et danse. Le peuple est appelé à apporter de l'huile raffinée d'olive concassée pour alimenter en permanence les lampes du chandelier. C'est la responsabilité des prêtres. Ils ont à assurer ce service qui consiste à faire brûler les lampes du soir au matin. Laisser s'éteindre la lampe, c'est faire entendre à Dieu qu'on l'abandonne. C'est ce qui est arrivé au temps du roi Achaz et que son successeur, le roi Ézéchias, a reconnu et corrigé. Ainsi, nous lisons quelques versets de ce qui nous est raconté à ce sujet dans le livre des Chroniques. Au premier mois de la première année de son règne, le roi Ézéchias rouvrit les portes du temple de l'Éternel et les fit remettre en état. Il convoqua les prêtres et les lévites et les réunit sur la place orientale. Il leur dit : Écoutez-moi, lévites, Maintenant, rendez-vous rituellement pur, puis purifiez le temple de l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres. Faites disparaître du sanctuaire tout ce qui le souille, car nos pères ont été infidèles. Ils ont fait ce que l'Éternel, notre Dieu, considère comme mal. Ils l'ont abandonné. Ils ont délaissé la demeure de l'Éternel. Ils lui ont tourné le dos. Ils ont délaissé la demeure de l'Éternel et lui ont tourné le dos. Ils ont même fermé les portes du portique. Ils ont éteint les lampes. Ils ont cessé d'offrir au Dieu d'Israël les parfums et les holocaustes dans le sanctuaire. Aussi l'Éternel s'est mis en colère contre Juda et Jérusalem et a fait de notre peuple un exemple terrifiant et un sujet de raillerie et de notre pays une étendue désolée comme vous le constatez vous-même. Éteindre les lampes de ce temple de l'Éternel, c'était vraiment un signe clair d'abandon, d'idolâtrie, de détournement de ce que le Seigneur avait prévu pour son peuple. À l'inverse de cet abandon, heureux ceux qui veillent dans l'attente du Seigneur. Telles les jeunes filles avisées qui ont pris leur lampe avec une réserve d'huile pour pouvoir attendre celui qui devait venir. Ou bien le serviteur fidèle dont la lampe demeure allumée, c'est ce que nous avons lu dans Luc, restez en tenue de travail, gardez vos lampes allumées, soyez comme des serviteurs qui attendent leur maître, parti pour une noce. Dès qu'il arrive et qu'il frappe à la porte, il lui ouvre, heureux ses serviteurs, que le maître, en arrivant, trouvera en train de veiller. Le culte d'Israël, tel que Dieu l'a organisé, et le rôle particulier de la lampe du sanctuaire, nous y revenons un instant, nous parle de cette rencontre, de cette convergence, entre la fidélité de Dieu et la fidélité du peuple, entre la présence vivante de Dieu auprès de son peuple et la présence vivante du peuple auprès de son Dieu. Notre privilège et notre devoir, nous sommes venus ce matin pour faire vivre pour Dieu et pour nous la flamme de notre amour pour lui et de notre foi. La lampe dans la vie de l'être humain. La lampe fournit la lumière pour chacun dans la maison. La lampe qu'on tient dans la main pour marcher dans l'obscurité éclaire les pas devant soi sur le chemin. C'est un ustensile indispensable de la vie courante. C'est l'image de cette vigilance, de cette vie active, du regard éveillé sur les réalités du monde et du regard éveillé sur la réalité de Dieu. Que vos lampes soient allumées, que vos lampes restent allumées. Présence vivante de Dieu par sa parole. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Lumière de portée juste suffisante pour le prochain pas. Non un projecteur ou un phare puissant qui éclaire loin. Ce qui compte, c'est à la fois que nous voyons suffisamment pour faire un pas de plus et qu'en le faisant, nous éclairions le pas suivant avec la lampe que nous portons et qui, de ce fait, avance avec nous. Nous avons la parole des prophètes qui est la solidité même sur laquelle vous avez raison de fixer le regard comme sur une lampe brillant dans un lieu obscur jusqu'à ce que luise le jour et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. C'est ce que nous lisons dans la deuxième lettre de Pierre. Présence vivante de l'homme qui regarde la lumière que lui fournit la lampe, qui l'entretient et qui marche. Une autre manière de dire la marche par la foi. La lampe ancienne qui éclaire tous ceux qui sont dans la maison, en Orient, les maisons des gens simples ne comprennent qu'une seule pièce. Toute la famille était éclairée par la lampe. Nous connaissons tous la parole de Jésus dans le sermon sur la montagne. Vous êtes la lumière du monde. Parole extraordinaire, adressée par Dieu aux êtres humains qui se confient en lui. Une lampe, si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à grain, avons-nous lu. Au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant les hommes pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. L'homme, selon sa nature, vit dans une ombre qui fausse toute perception des êtres et des choses, et gauchit toute perception des faits et des circonstances. Même si la déformation est légère, elle est radicale. Cette absence de vision vraie caractérise l'être humain avant qu'il rencontre la lumière qui régénère, la lumière qui vient de Dieu. Nous avons cette constatation, ils ont des yeux et ne voient pas. Pour que mes créatures retrouvent la lumière, dit Dieu, il faut que des porteurs de flambeaux aillent les chercher dans leur obscurité. Il faut que les marcheurs du jour aillent les trouver dans leur nuit. Il faut qu'il y ait des chemins dessinés par leurs lampes, des rayons qui chassent les ombres et des phares qui déchirent le brouillard. Vous êtes ces porteurs de lumière. Vous êtes la lumière du monde, dit Jésus. Saul de Tarse, devenu l'apôtre Paul, le pharisien brillant et aveugle galopant sur le chemin de Damas a été terrassé par la lumière d'en haut, terrassé et transformé. Comme ses yeux se fermaient au soleil, son cœur s'ouvrait à la clarté céleste. Et le voici envoyé vers d'autres aveugles pour qu'il leur ouvre les yeux et qu'il passe des ténèbres à la lumière, des yeux ouverts et qui voient. Voilà la nouvelle vertu de ceux que la rencontre du Christ a transformés. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Lumière extérieure qui devient lumière intérieure. Lumière de Dieu qui pénètre et qui change notre cœur pour en faire une source de rayonnement, lumière qui éclaire le visage et la vie. L'Écriture parle de la lumière qui est en toi. Cette expression est riche de sens. Nous ne sommes pas des objets réfléchissants, mais nous sommes des êtres rayonnants. Nous ne sommes pas une surface neutre qui se contente de renvoyer le rayon reçu. Nous sommes un corps et un cœur vivant qui, pénétrés par la lumière, la porte à d'autres comme l'expression même de la vie reçue et qui se donne. C'est notre cœur sans intelligence qui était plongé dans les ténèbres. C'est notre cœur qui a reçu la lumière régénératrice de Dieu et par elle la vie. Nous vivons désormais. Notre vie est notre lumière. Celle qui nous caractérise, celle que les autres voient et dont nous sommes responsables. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils louent votre Père qui est dans les cieux. Tel est l'enseignement de Jésus dans Matthieu 5, le sermon sur la montagne. Aucun orgueil, aucun sentiment de supériorité ne doivent apparaître chez ceux qui sont l'objet d'un tel privilège. Qu'ont-ils qu'ils n'aient reçu ? D'ailleurs, la lumière leur a révélé leur misère. Ils savent les obscurités qui demeurent en eux. Ils doivent être conscients des tendances à la possession, à la fixation, qui leur font prendre leur clarté provisoire et partielle pour une lumière totale et définitive. C'est la lumière de Dieu qui vient nous donner la possibilité d'être pour les autres la lumière du monde. L'humilité et la vigilance sont donc indispensables à ceux qui sont non les possesseurs, mais les porteurs de la lumière. Les disciples de Jésus sont appelés ainsi à être la lumière du monde. Lumière vacillante parfois, agitée par le vent, mais lumière toujours vivante. À l'image de Jésus-Christ, venu pour être la lumière du monde, ses disciples sont appelés à prolonger ce qu'il est venu apporter. Jésus s'est donné pour cela. Dans la nuit de l'offrande, la lumière de l'amour.